l'été, odorant et calme. Une marée de rosée et du vin de palme. Sur la terrasse, irisée de pétales sombres, le soleil éparpillé se marie à l'ombre. Sur la terrasse, aérée, style 1900, les dossiers enchevêtrés sont repeints en blanc. Sur la table horizontale, la lumière descend.
Bonjour à tous, septième numéro du Temps des Poètes sur 89.4 Radio Libertaire, bien sûr. Programme aujourd'hui, petite histoire de la poésie, nous retrouvons les rubriques habituelles. Nous allons parler de la transformation de la langue qui devient au fil des siècles une langue plus moderne. La rubrique les mouvements poétiques, aujourd'hui la période des Lumières. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer une chanteuse, poétesse, musicothérapeute, Lucile Denisot. Nous entendrons cet entretien un peu plus tard. J'ai pu la rencontrer, nous avons parlé de poésie, mais pas seulement. Elle nous lira également un de ses poèmes. Histoire de la poésie. Les poètes de la Pléiade, qui se nomment d'abord Brigade et Groupe, Ronsard, Thiard, Baïf et Jodel, doivent beaucoup au poète humaniste Jean Daurat, qui est né en 1508 et mort en 1588, qui fut leur maître au collège de Coqueret. Daurat les encourage à abandonner le jeu pour la passion, et les incite à donner à la poésie un instrument verbal approprié à sa dignité nouvelle. Il ne s'agit pas de singer les Grecs et les Romains, la poésie reste toujours musicale. Il ne faut pas oublier que de nombreux poèmes de Ronsard restent des poèmes à chanter. Mais la poésie doit se suffire à elle-même, point besoin de partition. Et oui, la poésie se distingue de la musique. La langue a du rythme, la langue se suffit à elle-même. C'est la naissance d'une certaine modernité de la langue. En 1549, Dubellé publie La Défense et Illustration de la langue française. Il publie en même temps 50 sonnets à la louange de l'olive suivi d'une antérotique de la vieille et de la jeune amie et de 13 odes. La forme fixe est encore neuve en France. Il utilise l'alexandrin qui sera pour longtemps le grand véhicule de la poésie. Il fait du poème un langage du langage avec beaucoup d'avance sur Baudelaire ou Mallarmé. Nous sommes dans un milieu aristocratique, mais la langue est moderne. Dubélé est protégé par Madame Marguerite, sœur d'Henri II, et par son oncle, le cardinal Jean Dubélé. L'auteur de l'Olive est sourd dès sa 30e année, un point commun avec Ronsard qui n'entend pas lui-même depuis ses 18 ans. Le plus important pour l'histoire de la poésie française est qu'il mette sur le même pied avec beaucoup de naturel une rivière d'Anjou et un fleuve de l'illustre Rome. Notre culture n'est plus assujettie à la culture gréco-latine, mais à la patrie gauloise. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison. Ronsard, pour sa part, introduit les formes, les couleurs, les sons et les frissons de la vie. Selon Jean Rousselot, qui a écrit cette merveilleuse histoire de la poésie dans la collection Que sais-je, source de documentation inépuisable dont je m'inspire pour cette émission, pour cette chronique, le matériel mythologique n'étouffe jamais chez Ronsard le brin d'herbe ou la rose. À Cassandre, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette véprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Las, voyez comme en peu d'espace, mignonne, elle a dessus la place, las, las, ses beautés, les séchoirs, ô vraiment, marâtre nature, puis qu'une telle fleur ne dure, que du matin jusqu'au soir. Donc si vous me croyez, mignonne, tandis que votre âge fleuronne en sa plus verte nouveauté, cueillez et cueillez votre jeunesse, comme à cette fleur la vieillesse fera ternir votre beauté. Pierre de Ronsard, Les Odes. Ronsard exerce une suprématie sur les poètes de son temps. Vous êtes tous issus de la grandeur de moi, vous êtes mes sujets, je suis seul votre loi. Il est un peu à l'origine de ce renouvellement linguistique. Bon, d'accord, il était peut-être un peu orgueilleux et un petit peu égocentrique. Pourtant, ceux qui vont suivre, en particulier Malherbe et les classiques, ne le reconnaîtront pas à sa juste valeur. Sans doute, il fallait qu'il s'affirme. Ils ne le seront pas reconnaissants d'avoir mis la langue française hors d'enfance. Hors d'enfance. On peut considérer que la langue était en enfance avant l'arrivée de Ronsard. Étienne de la Boétie, dont son ami Montaigne dira les vers charnus, pleins et moelleux, c'est Montaigne qui parle des vers de la Boétie, officia également à cette époque. Cet amour, c'est lui seul, je le sens, mais le plus vif amour, la poison la plus forte, à qui, onque pauvre cœur, est ouverte la porte, ce cruel n'a pas mis un de ses traits perçants, mais arc, trait et carquois, et lui tout dans mes sangs. Encore à moi n'a pas que ma franchise est morte, que ce venin mortel dans mes veines je porte, et déjà j'ai perdu et le cœur et le sens. Et quoi, si cet amour à mesure croit soi, qui en si grand tourment dedans moi se conçoit, ô crois si tu peux croître, et amende en croissant, tu te nourris de pleurs, des pleurs je te promets. La langue devenait plaisir des sens et des sons.
Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard quand on aime, c'est pour toute la vie. Cette vie qui dure l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste on imagine. Pour tout bagage on a sa gueule, quand elle est bad ça va tout seul, quand elle est moche on s'habitue, on se dit qu'on est pas mal foutu. On bat son destin comme les brèmes, on touche à tout, on dit je t'aime. Qu'on soit de la balance ou du lion, on s'en balance, on est des lions. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps, qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis l'on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend. Et puis ça se jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dent. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio. On est marrant, on passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Pour tout bagage, on a 20 ans. On a une rose au bout des dents qui vit l'espace d'un soupir et qui vous pique avant de mourir. Quand on aime, c'est pour tout ou rien. C'est jamais tout, c'est jamais rien, ce rien qui fait sonner la vie comme un réveil au coin du lit. Pour tout bagage, on a sa gueule devant la glace quand on est seul, qu'on ait été chouette ou tordu avec les ans. Tout est foutu. Alors on maquille le problème. On dit qu'il n'y a pas d'âge pour qui s'aime. Et en cherchant son cœur d'enfant, on dit qu'on a toujours 20 ans.
Vous avez reconnu Catherine Sauvage qui reprenait une chanson de Léo Ferré, bien sûr. À l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, et en nous abordant la chronique « Les mouvements poétiques », nous remontons l'histoire de la poésie, à l'époque des Lumières, au XVIIIe siècle, le classicisme perd en popularité et la poésie est délaissée au profit de l'instruction. La volonté d'instruire et de démontrer l'emporte sur celle d'émouvoir chez la majorité des gens de lettres de l'époque. Les auteurs importants de cette époque, bien sûr, c'est Voltaire, Jean-Pierre Clarisse de Florian, qui est un petit peu moins reconnu à notre époque. Les Lumières, c'est un mouvement de pensée qui parcourt l'Europe au XVIIIe siècle. En France, c'est l'Ancien Régime avec une monarchie absolue et de droit divin. Le roi est le représentant de Dieu. C'est une société d'ordre, le tiers-état, la noblesse, le clergé, fondée sur des privilèges pour les plus riches. Avant les révolutionnaires de 1789, ce sont les auteurs et philosophes qui remettent en question ce système inégalitaire. Ainsi, des philosophes comme Voltaire, Diderot, Montesquieu luttent contre les inégalités, mais aussi l'obscurantisme ou encore le fanatisme religieux. Dans son conte philosophique Candide ou l'optimisme, Voltaire critique ainsi la guerre, l'esclavage et la misère. Si les Lumières constituent le siècle de l'engagement et de la révolution, ils sont aussi celui du libertinage. Le mot a un sens différent de celui d'aujourd'hui. Au XVIIIe siècle, le libertinage, c'est d'abord la libération face aux règles dictées par la religion. Par exemple, être athée est une forme de libertinage, une prise de liberté face à la religion. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Le libertinage s'étend à tous les domaines. Être libertin, c'est penser et agir librement. Dans ce contexte de liberté et d'engagement, Voltaire, auteur d'essais politiques, qui est né en 1694 et mort en 1778, je le rappelle, donc en plein XVIIIe siècle, Voltaire, auteur d'essais politiques et de contes philosophiques portés par la critique, l'esprit et l'engagement au service de la liberté et de la tolérance, s'illustre aussi dans l'écriture de poèmes d'amour. Comme la littérature d'idées, la poésie devient philosophique, engagée, et ça c'est nouveau, et manifeste l'esprit des Lumières.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, un geyser. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire de roue. La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie rose. Un jour au cirque, un autre à chercher un coplaire. Un dresseur de loulou, un amateur d'inconnu. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'enfants au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes. J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'es dépanné. La nuit je mens, je prends les trains à travers la plaine. La nuit je mens, je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton égo. Où subsiste encore ton égo.
André Chédide, né André Sabe, le 20 mars 1920 au Caire, sultanat d'Égypte, est morte le 6 février 2011 à Paris 15e, est une femme de lettres et poétesse franco-syro-libanaise. Elle écrit son premier roman en 1952 et écrit des nouvelles, des poèmes, des pièces de théâtre, des romans et de la littérature jeunesse. Les héroïnes de ses œuvres sont décidées, prêtes à tout, pour atteindre leur objectif. Elle déclare son humanisme, entre autres, avec son livre « Le Message », écrit en 2000, en écrivant sa colère envers la guerre et la violence à travers deux amants séparés par des guerres. André Sabe est la fille de Selim Sabe, chrétien maronite né à Babda, dans le Moutassi Rifa du Mont-Liban, et d'Alice, née Kouri Haddad en 1900 dans la communauté grecque orthodoxe de Damas. Le 23 août 1942, elle se marie à Louis Selim Chédid, issu d'une famille bourgeoise maronite du Caire, également d'origine libanaise. Alors étudiant en médecine, celui-ci deviendra chercheur en biologie, d'abord au Centre National de la Recherche Scientifique, Puis en tant que professeur de l'Institut Pasteur, il est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels, avec son épouse, Le cœur demeure et Babel. Il a retracé son autobiographie dans Mémoires vagabondes. André Chédid est la mère de Michel Chédid-Koltz et de Louis Chédid, et la grand-mère de plusieurs enfants, dont Mathieu Chédid, ainsi connu sous le nom d'artiste de Émile Chédid, de M. Anna Chédid, ainsi que leur cousine Beryl Koltz. Elle a fait ses études, André Chédid, en Égypte, dans des écoles égyptiennes puis françaises, avant d'intégrer l'université américaine du Caire. Elle y obtient un baccalauréat universitaire en journalisme en 1942. En 1943, elle part vivre au Liban avec son mari. Elle publie son premier recueil de poésie, en anglais, On the Trails of My Fancy, sous le pseudonyme A. Leck. En 1946, elle s'installe définitivement à Paris. Son mari est professeur à l'Institut Pasteur. Tous les deux acquièrent la nationalité française. Elle opte alors définitivement pour la langue française, dans laquelle elle publiera le reste de son œuvre, passionnée de dictionnaire, où elle l'avouera aimer se perdre d'un mot à l'autre, d'un monde à l'autre, d'une notion à l'autre, tel que dans un voyage ou plus tard du surf sur la toile. André Chédid a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Son fils Louis, avec la chanson « Maman, maman », puis son petit-fils Mathieu, alias M, dans des livres, évoquèrent tous deux la maladie de l'autrice. Ses obsèques ont lieu à l'église Notre-Dame du Liban à Paris, avant son inhumation au cimetière du Montparnasse. André Chédid a évoqué sa maladie dans son dernier recueil de poèmes, « L'étoffe de l'univers ». Son veuf, le professeur Louis Selim Chédid, se remariera avec Françoise Audibert, une ancienne collaboratrice de laboratoire, avant de décéder lui-même 10 ans et un mois, jour pour jour après elle, le 6 mars 2021, à l'âge de 98 ans. L'œuvre d'André Chédid est un questionnement continuel sur la condition humaine et les liens entre l'homme et le monde. André Chédid, dans toute son œuvre, célèbre la vie tant aimée tout en ayant une vive conscience de sa précarité. Elle encourage chaque homme à accepter l'altérité. Son style très travaillé se caractérise par sa fluidité. Elle évoque l'Orient avec une grande sensualité pour mettre en avant ses parfums. Elle s'attache à décrire la guerre du Liban également, qui est toujours d'actualité, malheureusement. L'œuvre d'André Chédid est attentive à la question de la condition de la femme. Dans plusieurs de ses récits, elle propose une réécriture de l'histoire de façon à donner voix et existence à ces figures, le plus souvent laissées dans les marges du discours historiographique que sont les femmes. Je reste émerveillé du clapotis de l'eau, des oiseaux gazouilleurs, ces bonheurs de la terre. Je reste émerveillé d'un amour invincible. Toujours présent, je reste émerveillé de cet amour ardent qui ne craint ni le torrent du temps, ni l'hécatombe des jours accumulés dans mon miroir défraîchi. Je me souris encore, je reste émerveillé, rien n'y fait, l'amour s'est implanté. Une fois pour toutes, de cet amour ardent, je reste émerveillé.
Découvrir que la trahison débute par l'amour ou l'amitié. Mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Pour moi, t'étais plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé? Juste avec un petit peu d'amour, tu croyais pouvoir être sauvé. Idole, icône, aimée, adulée, t'as tout connu, tout traversé. Juste avec un petit peu d'amour être adoré et parfois se tromper. Découvrir que la trahison commence par l'amour ou l'amitié. Mais c'est pas faute de pas t'avoir revenu. T'as rien écouté, t'as voulu toujours te surpasser, éprouver que t'étais un demi-dieu, un héros de la rue. Invincible, un guerrier. T'as rêvé, mais t'as brûlé toute ta vie en petit matin, en blanche nuit. Trop tard pour regretter le passé. Pour moi, t'es plus qu'un ami, un demi-frère, presque un sosie. À quoi bon remuer le passé? Avec un peu d'amour, un peu d'amour.
Anne Masserane est une chanson de Louis Chédid. C'était pas celle que l'on vient d'entendre, bien sûr, c'était Eddie Mitchell que nous venons d'entendre. Mais Anne Masserane est une chanson de Louis Chédid. Et nous abordons la chronique Une chanson des mots. La chanson de Louis Chédid, Anne Masserane, est sortie dans l'album du même nom en 1985 et en single la même année. Il s'agit de l'un des titres les plus connus de l'artiste. Alertant sur le retour des extrêmes dans la société française, on est en plein dedans aujourd'hui, Anne Masserane s'inscrit dans un mouvement artistique d'antiracisme dans les années 80. Et dans les années 80, l'extrême droite en France n'était pas au niveau où elle était aujourd'hui. De même, il s'agit d'un des thèmes habituels dans l'œuvre de Louis Chédid. Je vous propose d'écouter tout de suite cette chanson.
Elle reviendra plus la vermine, mais beaucoup d'individus pour ces anciens damnés au goût de déjà vu. Beaucoup trop d'indulgence, trop de bonnes manières pour cette nazie nostalgie qui ressort de sa tanière. J'arrive pas à y croire, c'est comme un cauchemar, sale cafard.
Bien sûr, 89.4 Radio Libertaire. En 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme est organisée. En 84, le Front National, qui s'appelait à l'époque Front National, réalise sa première percée sur le plan national en obtenant 10,95% des suffrages exprimés aux élections européennes. La chanson alerte sur la montée de l'extrême droite en France dans les années 80. Plus généralement, outre le racisme et l'antisémitisme, Louis Chédid insiste sur le fait que toutes les formes de massacre d'êtres humains, tels les génocides, sont visées dans la chanson. Se remémorant son enfance, Louis Chédid déclare que dans les années 50, l'extrême droite est symbolisée dans son esprit par la figure de l'avocat Jean-Louis Tixier-Vignancourt, dont le score de 5,2% à l'élection présidentielle de 1965 n'a inquiété personne. Plus tard, vers l'âge de 13 ans, il voit à l'école Nuit et brouillard d'Alain René et se dit heurté par ces images parce qu'au sortir de la guerre, aucun adulte, ses parents compris, n'évoque le sujet. Il fait part également de souvenirs liés à l'adolescence qui le marquent particulièrement. D'une part, le film Capot, où une jeune fille juive survit dans un camp de concentration en vendant son corps et son âme aux nazis. D'autre part, le journal d'Anne Frank, où l'héroïne est victime de la persécution puis l'extermination mise en place par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il mentionne le conte La Barbe Bleue, dans lequel une jeune femme, au cours d'une célèbre tirade, demande à sa sœur Anne si ses frères arrivent pour la sauver d'une exécution décidée par son époux. À l'époque, Louis Chédid est sous le label CBS, la maison de disques refuse de sortir le 45 tours, par crainte et en considérant que le titre ne sera jamais un tube. Il rompt alors son contrat pour signer chez Virgin. Pour la libre Anne Masseran, partage avec Né quelque part de Maxime Le Forestier la gravité du thème et la séduction rythmique. Libération, de son côté, qualifie le titre de brûlot humaniste. Anne Masseran, ne vois-tu rien venir, est une citation du conte de Charles Perrault, La Barbe Bleue. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure Barbe Bleue. Quand la jeune épouse que Barbe Bleue cherche à oxyre interpelle sa sœur Anne. Cette adjuration et sa réplique, je ne vois que le soleil qui poudroie, sont passées dans le langage populaire pour désigner toute situation où un événement est attendu sans trop plus d'espoir.
Veste à carreaux, bien smoking, un portefeuille dans la tête, chemise en soie pour les meetings, déjà voûtée par les courbettes. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne, c'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle, du talent pour les additions, le gars grippé sur les pucelles. La chasse à cour chez Bertrand, le dada au bois de Boulogne, deux ou trois coups pour le faisan et le reste pour l'Amazone, c'est là. Les 5 à 7, pas vu, pas pris, la romance qui tourne à vide, le sens du devoir accompli et le cœur en celluloïde. Les alcôves de chez Barbès, au secret de Polichinelle, l'amour qu'on prend comme un express alors qu'elle veut faire la vaisselle. C'est là. Le héros qui part le matin à l'autobus de l'aventure et qui revient après le turbin avec de vagues courbatures. La triste cloche de l'ennui qui sonne comme un téléphone, le chien qu'on prend comme un ami quand il ne reste plus personne. C'est là. Les tempes grises vers la fin, les souvenirs qu'on raccommode avec de vieux bouts de satin et des photos sur la commode. Les mots d'amour rafistolés, la main chercheuse qui voyage pour descendre au prochain arrêt, le jardinier de la fleur de l'âge, c'est là. Le va-t-on guerre, il faut y aller, qui bouffe de la géographie avec des cocardes en papier et des tonnes de mélancolie. Du goût pour la démocratie, du sentiment à la pochette, le complexe de panoplie que l'on guérit à la buvette, c'est là. L'inconnu qui salue bien bas les lents et douloureux cortèges et qui ne se rappelle pas qu'il a 75 berges. L'individu morne et glacé qui gît bien loin des mandolines et qui se dépêche à bouffer les pissenlits par la racine, c'est là.
Lucille, tu es chanteuse, tu es musicothérapeute, tu fais des chansons, tu aimes beaucoup faire des paroles aussi. Je crois que tu préfères les paroles à la musique. J'ose.
Non. J'aime les deux.
D'accord. Oui, parce que tu es très mélodiste aussi. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises si tu aimes la poésie.
Oui, j'aime beaucoup la poésie. Je n'en lis pas suffisamment, je ne la connais pas suffisamment non plus. Mais j'en ai lu quand même pas mal et je sais que j'ai beaucoup de livres de poésie qui trônent fièrement dans, j'ose pas le dire où, dans mes toilettes. Mais c'est un très bon endroit pour lire de la poésie, mais j'ai vraiment honte de le dire.
On est au calme. Hein,
c'est ça. Et ouais. Là, je lis toujours un poème ou deux et j'ai l'anthologie, des anthologies de poésie aussi là. Oui.
Ben, aux toilettes, c'est soit les bandes dessinées, soit la poésie.
Soit les poésies.
Et effectivement, il y a quand même un rapport entre la chanson et la poésie. Au départ, il y avait les troubadours. C'est quand même très lié. Donc le fait que tu sois chanteuse, c'est très bien que tu nous parles un peu de poésie. Quel est ton poète préféré ?
Alors c'est vrai que depuis l'adolescence, c'est un peu bateau et cliché, mais c'est Baudelaire.
Oui.
Voilà. Le côté un peu sombre, enfin même pas un peu, beaucoup. Et voilà, après j'ai découvert aussi Desnos, Prévert, ce sont des poètes que j'aime aussi beaucoup.
Oui.
Voilà.
Donc la période poétique, ta période poétique, si tu aimes Baudelaire, c'est plutôt le 19e siècle finalement.
Oui, le 19e, donc oui. Enfin Baudelaire en tout cas. Et après, peut-être des poésies plus légères, avec Prévert, enfin plus légères. Moins sombre en tout cas.
Ouais. Donc tu préfères la poésie avec des sans rimes plutôt que la poésie avec des rimes.
Moi j'aime bien la poésie quand même avec des rimes. C'est vrai que les poésies actuelles ont tendance à faire voler en éclats non seulement les strophes.
Oui.
La rime, bon, ça fait un moment qu'elle a un peu...
Ça a beaucoup évolué.
Voilà,
avec Éluard déjà.
C'est ça. Oui. Mais la strophe, tout ça, bon, c'est vrai que déjà avec les calligrammes, la strophe elle devenait dessin. Donc là,
oui.
Les calligrammes d'Apollinaire, hein, c'est ça.
Oui, tout à fait. Ça a beaucoup bougé la poésie à partir du XXe siècle.
C'est ça.
On s'est un peu débarrassé des carcans.
Des carcans. Du quatrain.
Exactement. Ça reviendra peut-être, on ne sait pas. Et est-ce que tu connais un poème par cœur que tu pourrais nous réciter ? Tu peux répondre non.
Je connaissais à l'époque Enivrez-vous de Baudelaire, mais je ne le connais plus.
D'accord.
Je le connaissais par cœur, mais je ne le connais plus.
Parce que justement, on se souvient des récitations. D'ailleurs, beaucoup de gens détestent la poésie à cause des récitations. C'est une manière de réciter de la poésie, effectivement, de parler de poésie. Mais alors, quelquefois, la période scolaire, souvent, ça laisse des mauvais souvenirs. Et peut-être qu'il faut se détacher un peu de ces périodes pour pouvoir aimer de nouveau la poésie, finalement. Parce que enfin, moi, je me souviens du temps, d'une époque où on décortiquait les poésies. Ça, je détestais ça, décortiquer les poésies phrase par phrase et qu'est-ce qu'il a voulu dire, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi ?
Moi, j'ai de très bons souvenirs de poésie à l'école. Le bonhomme de neige qui fond à côté du poêle. Oui. Tout ce qui était la fourmi de 18 mètres. Il y avait des snows. Il y avait Maurice Carême. Il y avait tous ces poètes-là. Mm-hmm. Mais c'est vrai que j'ai pas fait cet effort de les mémoriser à l'âge adulte.
Oui.
Et je sais pas si... C'est vrai que je ne m'en souviens pas. Et les décortiquer, oui, c'est quand même intéressant de le faire parfois pour en découvrir le sens un peu qui n'est pas forcément accessible tout de suite, quoi. On va peut-être s'attacher à la forme et puis pas forcément comprendre ce que le poète a voulu dire. Donc c'est bien aussi parfois de...
Oui, quelquefois c'est bien que ça soit incompréhensible, hein, finalement.
Ah oui, il y a ça aussi.
Parce
oui.
que la poésie, ça joue avec les émotions aussi. C'est,
oui, c'est vrai.
C'est une manière de traduire les émotions.
Alors aussi. Purement formel, parce que il y a des sons qui vont s'entrechoquer, qui vont être beaux, qui vont nous émouvoir, parce qu'il y a deux mots qu'on va faire rimer, alors que c'est des mots qu'on n'aurait jamais imaginé que ces deux mots-là, on puisse les faire rimer. Et c'est tellement incongru que ça va provoquer en nous une surprise et une émotion agréable.
Oui, oui, mais la poésie, c'est l'art de traduire les émotions, l'inconscient aussi. Donc ça a un rôle important. Justement, est-ce que tu penses que la poésie a encore un rôle à jouer dans la société actuelle ?
Je crois qu'elle a un grand rôle à jouer et j'ai cru comprendre, d'après ce que je vois un peu partout. Moi, je fréquente un peu rue de Bourgogne.
Le Club des Poètes ?
Voilà, j'ai même invité des amis à dîner au Club des Poètes qui ne connaissaient pas. Et une amie qui habite le sud de la France, notamment, et une amie parisienne qui ne connaissait pas non plus. Et elles ont adoré. Et on a été surpris de la jeunesse. Il n'y a que des jeunes. Mmh. On était les plus âgés de l'assemblée. Et des jeunes qui connaissent des poèmes par cœur. Enfin, moi, j'ai honte parce que là, je suis incapable d'en réciter un. Mais passionnés. Et sur les réseaux sociaux, je vois aussi beaucoup, beaucoup de sites autour de la poésie. J'ai l'impression qu'elle est en train de revenir en force, là, actuellement.
Oui, c'est vrai. Avec d'autres manières, peut-être, de réciter de la poésie, le slam, par exemple. Enfin, mais le Club des Poètes, ça a été fondé par Jean-Pierre Aunet, effectivement. Et effectivement, l'obligation, c'est de réciter, de savoir les poèmes par cœur, effectivement.
Ouais.
C'est un lieu où on peut écouter de la poésie. Il y a d'autres lieux, sûrement, en tout cas à Paris. Hein. Est-ce que la poésie... Est-ce que tu trouves, par exemple, que la publicité, c'est de la poésie ? Est-ce que ça a pas un peu pris le dessus sur la poésie, justement ? La publicité a une grande force par rapport à la poésie, c'est qu'elle véhicule des images. L'image est quand même est dominatrice, je dirais, actuellement.
Ouais.
Alors que quand il n'y avait pas d'image, on pouvait imaginer. La poésie, c'est aussi l'art d'imaginer.
Oui, de se faire ses propres images.
Et on se fait ses propres images.
Et d'ailleurs, même en chanson, hein, il ne faut apparemment pas être trop abstrait, parce que quand on est trop abstrait, la personne qui écoute n'arrive pas à se faire ses propres images. Ouais. Et quand on passe dans le concret, qu'on utilise des mots concrets, tout de suite, les images apparaissent. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi un conseil qu'on peut suivre en ce qui concerne la chanson. En poésie, la publicité, relation poésie. Oui, moi je trouve que c'est vrai. Je pense à Gauthénaire, par exemple, qui a fait pas mal de publicité. Elle baguenaude dans les pâturages, tout le monde l'aime tant, belle des champs. Bah, ça,
là,
je connais.
C'est écrit aussi. Hein.
Ça rime, il y a des beaux mots, baguenaude, pâturage. C'est de la poésie, c'est de la pub, mais c'est de la poésie. Après, Gauthénaire est un... On a eu une masterclass avec lui à la SACEM, c'est incroyable, c'est un poète vraiment. D'ailleurs, il passe un temps fou à écrire,
ouais.
Il s'arrache les cheveux.
Et oui, il écrit beaucoup. Hein,
et il passe un temps, on a l'impression que ces petites chansons comme ça rigolotes, mais pour lui, l'écriture, c'est tout, quoi, ouais. Vraiment. Donc voilà, je pense à lui, je ne sais pas pourquoi.
Ouais, moi, je l'ai vu récemment à la télé, Gauthénaire, justement, parce qu'il fait un spectacle, je ne sais pas, à l'Apollo Théâtre, je crois, il me semble. À
ouais.
Paris en ce moment,
je crois.
Avec ses textes, avec les textes de ses chansons. Comme quoi, ses chansons sont très écrites, hein, effectivement. Alors, le mot le plus poétique, selon toi, le mot le plus poétique? C'est une question piège.
Ah oui, c'est une question piège. Après, il y a tous les mots qu'on retrouve tout le temps en poésie. L'oiseau, le ciel, ouais. Je ne sais pas moi, l'amour. Mais le mot le plus poétique, ça serait plutôt un mot très rigolo. Un mot berrichon, parce que moi, je viens donc de cette belle région et donc j'ai gardé pas mal de vocabulaire.
Le Berry, c'est...
C'est Bourges, le chef-lieu, voilà, le centre. Ouais. Et donc, on utilise vraiment un vocabulaire incroyable. Donc... comme engoncé ou bien gobousé. Voilà, ouais. Donc ce seraient des mots poétiques pour moi.
Gobusé, oui, effectivement.
Gobousé.
Gobousé. Oui.
Gobousé,
ouais, ouais. La langue française est très poétique aussi. Hein.
Et le patois régional avait des termes incroyables, très drôles, et je ouais. pense qu'il pourrait tout à fait figurer dans des poésies.
Ah oui, tout à fait.
Ouais.
Rabelais n'était pas très loin de la région du Berry, je crois.
Ah oui.
Il était de Touraine, je crois. Il me semble.
Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
Alors, qu'est-ce qu'un poète, selon toi? Parce qu'on parle beaucoup de poésie, mais qu'est-ce que c'est qu'un poète, finalement? Qu'est-ce que c'est que la poésie, aussi?
Alors, un poète, je pense que c'est quelqu'un qui est... On parle des hypersensibles, aujourd'hui.
Ouais.
HP.
Ouais.
HPE, hyper... Voilà. Ce serait un hypersensible, en tout cas. Je pense que... Pour être poète, il faut être sensible. Il faut être concerné par le monde qui nous entoure. Ressentir... les émotions, avoir de l'empathie, sentir un peu l'air du temps, la société, comment elle est. Et puis, être un peu rêveur aussi, un peu dans la société, mais un peu aussi en marge. Et regarder un petit peu tout ça de son point de vue, quoi.
Oui, ouais, tout à fait. Donc, tu penses que la poésie peut changer le monde, finalement?
Eh bien, je pense que la poésie, oui. Oui. Oui, oui. Elle a vraiment un grand rôle à jouer. Malheureusement...
Les mots peuvent changer
ouais,
les choses.
C'est vrai que aussi. Je pense à des poètes ou des chanteurs qui ont fait bouger les choses sur un certain nombre de sujets, notamment le féminisme,
ouais.
Ou même, je sais pas, des dictatures...
Ouais.
Des chanteurs-poètes qui ont dénoncé des dictatures, ça a pu quand même aider à ce que la démocratie arrive dans certains pays. Quoi.
Tout à fait. Et tu penses que la poésie a plus d'influence aujourd'hui qu'avant, au cours du 19e siècle, par exemple, ou moins d'influence? Il y a d'autres influences maintenant. Hein.
La chanson est très présente, c'est vrai. Le rap, effectivement, c'est aussi une forme de poésie. Mmh. Hein. Elle est très proche de la poésie, d'ailleurs. Mais après, est-ce qu'elle est plus présente ou pas? Je ne sais pas. Franchement, j'en sais rien, parce que comme je ne vivais pas au 19e siècle, je ne m'en rends pas compte.
Bah, je vais terminer par une dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y a assez d'émissions de poésie à la radio?
Ah non, j'aimerais vraiment qu'il y en ait plus.
Voilà, c'est ça. Il faut qu'il y en ait plus.
Ah non,
il y en a
vraiment.
Très peu, en fait.
C'est sur les grandes radios.
Même sur France Culture, il y en a très peu.
Ah, mais franchement, ouais. Mmh. Ouais, ouais, ça serait formidable.
Effectivement.
Ouais, ouais, vraiment.
Ben merci, mais je crois que maintenant tu vas nous lire un poème de ta composition que tu as choisi. Donc tu peux essayer de le lire.
Alors, le poème s'appelle « Vois les bateaux ».
Oui.
Vois les bateaux, leurs grandes voiles de fine toile, tendues sur cadre, des chevaux sur la mer, au galop. Bannière au vent, autour du monde à faire la ronde entre les continents sur de vieux océans. Fouettés par les embruns, malmenés et frappés par des vagues en colère, la coque renversée parfois jusqu'au naufrage, ils passent un beau matin au large, dans une aube incendiaire, après des jours de quarantaine, les quarantièmes rugissants, les quarantièmes rugissants. Vois les bateaux, leurs nobles lignes, celles de cygnes, avec des profils de fuseaux, de leurs becs fendent de l'eau. Ailes rabattues pour la vitesse, que de prouesses, accostant tête nue sur des îles perdues. Caressés par la brise, dorlotés et bercés par un doux clapotis, et la poupe alanguie au milieu de nulle part, ils passent, comme on devise un soir dans la pénombre grise, après des nuits sans capitaine, les cinquantièmes hurlants, les cinquantièmes hurlants. Vois ces bateaux, comme des hommes, comme des femmes, comme de piètres animaux sur la terre, au dépôt, le ventre à l'air, en cale sèche et la peau rêche, rêvant qu'un seul éclair les coule en mer avant l'enfer. Chatouillés par les algues, visités, baisotés par les bancs de poissons, la nef au diapason du silence abyssal, ils couchent dans le fond l'épave sur un sommier de sable après une vie en dents de scie traversée par un énième courant, par un énième courant.
Ben bravo. En tout cas, si vous cherchez une radio où il y a de la poésie, eh bien, c'est Radio Libertaire 89.4. Nous sommes toujours sur Radio Libertaire 89.4 et on est bien.
De Charles Baudelaire. Après les bateaux, voici l'oiseau qui se pose sur les bateaux. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent, indolents, compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. À peine les ont-ils déposés sur les planches que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, laissent piteusement leurs grandes ailes blanches comme des avirons traînés à côté d'eux. Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule, lui naguère si beau qu'il est comique et laid, l'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince des nuées, qui hante la tempête et se rit de l'archer, exilé sur le sol au milieu des huées.
Le corps sans vie du poète et traducteur Yann Monk a été découvert vendredi 19 septembre chez lui à Bourges. Il avait 65 ans. Yann Monk était né le 1er janvier 1960 à Woking, au sud-ouest de Londres. Il avait fait des études de lettres classiques à l'université de Bristol, vécu dans la capitale britannique une jeunesse punk avant de s'installer à Paris. Yann Monk aura traduit Raymond Roussel, Georges Perec, Hugo Pratt, Marie Darieussecq, Yannick Enel et ses amis oulipiens de Jacques Roubaud aussi. En 2004, pour sa traduction de Monsieur Malocène de Daniel Pénac, il avait reçu le prix Scott Moncrieff. Poète avant tout, Monk pouvait être à la fois formaliste et lyrique, prosaïque et bouleversant. Il a publié plus de 20 ouvrages, tant en anglais qu'en français. La litanie d'Aujourd'hui le soleil ou le tragique Plucktown. Je voulais donc lui rendre hommage aujourd'hui. Voici un extrait de ses poèmes. Non, ça ne change pas tant que ça, la vie, on dirait non, ça reste coincé. Comme une vieille bonne sœur, et plus la mort s'approche, plus elle coule. La vie non-stop comme un court fleuve turbulent dans lequel on se noie comme un gros poisson pané. « À Julie, on me demande par les rues pourquoi je vais, bâillant aux grues, fumant mon cigare au soleil, à quoi se passe ma jeunesse. Et depuis 3 ans de paresse, ce qu'ont fait mes nuits sans sommeil. Donne-moi tes lèvres, Julie, les folles nuits qui t'ont pâli, ont séché leur corail luisant, parfume-les de ton haleine, donne-les-moi, mon africaine, tes belles lèvres de pur sang, mon imprimeur crie à tue-tête que sa machine est toujours prête, et que la mienne n'en peut, mais d'honnêtes gens qu'un club admire n'ont pas dédaigné de prédire que je n'en reviendrai jamais. Julie, as-tu du vin d'Espagne? Hier nous battions la campagne, va donc voir s'il en reste encore. Ta bouche est brûlante, Julie. Inventons donc quelques folies qui nous perdent l'âme et le corps. On dit que ma gourme me rentre, que je n'ai plus rien dans le ventre, que je suis vide à faire peur. Je crois, si j'en valais la peine, qu'on m'enverrait à Sainte-Hélène. Avec un cancer dans le cœur. Allons, Julie, il faut attendre à me voir quelques jours en cendres, comme Hercule sur son rocher, puisque c'est par toi que j'expire. Ouvre ta robe, déjanire, que je monte sur mon bûcher. Alfred de Musset. Voilà, l'émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. Tout de suite après moi, c'est bien sûr, comme tous les jeudis, Faites-nous des chansons. Alors, je ne sais pas quel est le programme de Faites-nous des chansons. J'ai Pascal qui est juste à côté.
Alors, aujourd'hui, c'est une promenade en chansons. Il n'y a pas d'invité, juste chansons en liberté. Merci Philippe, bonjour.
Bonjour. Et moi, je dis au revoir en tout cas. Donc, je vous retrouverai bien sûr... au mois d'octobre pour de la poésie. En tout cas, en attendant, lisez des poèmes et pourquoi pas, vous pouvez aussi en dire ou en faire même. Thank you. C'était Le Temps des Poètes. À bientôt.
Le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendants de corail qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. si vous en volez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous n'aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula, troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous